Julia Trangeval.
Bonjour. Plonger dans l'intime, dans ce qu'on affiche en société, dans ce qu'on dit à la famille ou ce qu'on ne dit pas. La rhétorique du rideau, c'est une exposition qui se tient jusqu'au 27 juillet prochain à Paris, dans l'antenne de l'Institut des cultures d'islam de la rue Léon, dans le 18e arrondissement, et qui permet à de jeunes artistes de culture musulmane de montrer ce qu'ils veulent, et seulement ce qu'ils veulent, de leur désir, de leur orientation sexuelle et de leur genre. Mais d'abord, nous explorons le désir d'être loin, loin des injonctions familiales, en regardant El Sardine, la série numérique diffusée actuellement sur Arte TV.
On va étudier leurs secrets, et peut-être même faire des découvertes. Tu sais, comme les chercheurs qui ont découvert qu'en Méditerranée, c'est à cause du réchauffement climatique que les sardines rétrécissent.
Nous sommes en Méditerranée. Ailleurs, les sardines rétrécissent à alléger le réchauffement climatique. Nous avons disparu. Nous sortons.
Bah, elles ont décidé de se barrer d'ici en premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ?
Bonjour, Zuli Ratar.
Bonjour.
Lorsque j'ai vu qu'Arte diffusait El Sardine, je me suis dit, c'est super, parce que ça fait parfaitement écho à la conférence de l'ONU sur l'océan qui se tient en ce moment à Nice. Et puis, j'ai regardé la série. Et alors, on parle de sardine, on parle de réchauffement climatique, mais on parle surtout de cheveux, de désir d'ailleurs, de nouveaux départs, loin de la pression familiale.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, les sardines, c'est un point de départ parce que ça se passe dans une station balnéaire à une turque près d'Oran. Donc, ça nous tenait à cœur de raconter l'ambition d'une ingénieure biomaritime qui, dans une Algérie dystopique et en proie au réchauffement climatique, les sardines ne viennent plus sur les côtes. Et elle a choisi donc pour mener une expédition scientifique tout autour de la Méditerranée jusqu'en Afrique du Sud pour comprendre l'évolution des sardines et suivre la course des sardines qui existe vraiment. Et face à cette ambition, elle fait face à un mur qui est la famille, le qu'en dira-t-on, la pression du mariage, la pression sociale. Et les sardines aussi, c'est une petite métaphore parce que c'est le seul animal dans la migration, n'a pas de raison de reproduction alimentaire. Les sardines migrent vers l'Afrique du Sud parce qu'elles en ont envie. Donc elles ont un désir d'ailleurs qui est très fort, le même que Zouzou.
Zouzou, on va suivre cette putain de course de sardines en bateau jusqu'en Afrique du Sud. On a toujours rêvé de faire ça. C'est une chance, Zouzou, cette expédition. Te mets pas à douter ailleurs. Am expédition, we know we'll love les solutions. Am expédition, we know we'll love les solutions.
Zouzou, c'est donc la protagoniste de cette série. C'est un peu vous aussi ?
Ouais. Oui, c'est mon surnom. Moi, je m'appelle Zouzira, ma famille m'appelle Zouzou, mes amis m'appellent Zou. Et puis, je le dis souvent, mais c'est aussi inspiré d'un film qui, moi, a été un des premiers films que j'ai vu enfant et qui m'a donné envie de faire ce métier. Méfie-toi de Zouzou, une comédie musicale égyptienne, où il y a un peu les mêmes thèmes, où le personnage principal lutte contre ses propres désirs, ses envies d'exister à contre-courant et le réformisme de la société et de la famille. Et puis c'est aussi un film où l'histoire d'amour principale de Zouzou, dans Méfie-toi de Zouzou, c'est son histoire d'amour avec sa mère. Et pareil dans El Sardine, pour moi Zouzou elle cherche l'amour, mais le vrai amour, sa plus grande histoire d'amour, c'est celle avec sa mère.
On voit qu'elle veut fuir la pression familiale, le patriarcat, les hommes harceleurs. Mmh. Et pourtant, toutes ces femmes algériennes qui sont dans la série, elles ont du répondant.
Hein. Ouais.
Sa mère la première.
Oui, tous sont très ambivalents, même les mecs dehors qui la charrient et qui la harcèlent. Je veux dire, c'est les gars du quartier. Enfin, c'est des mecs avec qui elle a grandi.
Elle connaît bien.
Elle les connaît bien et ils la connaissent bien. Et si un jour elle a un problème, ça va être les premiers qui vont être à la face.
Oui, Zouzou. Vous aussi ou la mazan ? Allez, allez. قاري باغي نهضر معاك
شو تهضر معايا
انت قول غير باللي شت واحده في الصناب تزوج مع القطاع
ايا
Et puis sa famille, pareil, est très dure avec elle, mais en même temps, c'est les personnes qui l'aiment le plus. Et les femmes ont énormément de répondants. Je suis née, j'ai grandi en Algérie, et au-delà du fait que l'histoire de Zouzou soit inspirée de mes 6 derniers jours en Algérie, de mon départ à moi, le fait que j'ai décidé d'arrêter de l'ingénierie pour faire du cinéma et l'annoncer à ma famille, ça a été un choc. Mais au-delà de ça, c'est aussi inspiré des figures de femmes qui m'ont toujours entourée et qui ne se laissent pas faire.
Je veux pas qu'on me tire les cheveux, ça ne va pas servir. Ouais, c'est la dalle. Qui t'a parlé de te tirer les cheveux ?
sont magnifiques. Très secs. Tristes. Inquiets. Rentre, on va peut-être t'aider. Une autre fois, peut-être. Viens quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Et promis, on s'est coiffé tous les cheveux ici.
Un des moments qui est les plus poétiques, les plus réjouissants dans cette série, c'est les moments qui se passent dans ce salon de coiffure, ouais. Où là, on est vraiment dans l'intimité et dans un moment de repos, justement, par rapport à toute cette effervescence, toute cette dureté aussi.
Ouais. En fait, avec ma co-scénariste Kautala Dimi, on voulait qu'on comprenne le mal-être de Zouzou, qu'on y ait accès. Et on voulait un endroit qui lui sert d'exutoire et qui nous permette de rentrer dans son intériorité. Et donc, la psychanalyse dans les séries, enfin, moi, je pense à la série Khamshin, ou je pense à la série En thérapie, où c'est toujours des lieux où on arrive à comprendre très vite de quoi il s'agit. Donc on voulait créer un espace comme ça. Et puis bah, dans un pays comme l'Algérie, où malheureusement la psychanalyse est encore tabou, moi, les salons de coiffure, ça a toujours été les endroits de psychanalyse qui me faisaient du bien. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet espace. Et c'est drôle parce que Maryam Mushken, qui interprète Nadia, est psy, a fait des études de psychologie avant d'être actrice. Je suis contente que plein de gens me disent que c'est un endroit qui fait du bien. Ça n'a pas été évident à tourner ces séquences-là parce que c'est un tout petit lieu, c'est un huis clos. Et c'est un endroit chargé d'émotions, donc il fallait trouver le juste équilibre entre le côté comique et le côté sérieux de ce lieu. Enfin, c'est dense, quoi, mais...
Maintenant, est-ce que tu as envie de partir?
Je comprends pas la question. J'ai pas le choix, Nadia. Je supporte plus les commentaires sur mon célibat, Nadia. Qu'on exige de moi quelque chose de très engageant. Et que beaucoup font sans réfléchir.
Ça n'a pas été facile à tourner comme série?
Bah, en fait, c'est dense, quoi. Il y a énormément de personnages, il y a énormément de dialogues. C'est une comédie dramatique, il y a énormément de tensions. Et puis, on n'avait pas beaucoup de jours de tournage. On avait 14 jours de tournage pour, au prix minutage, à la base, elle faisait 73 minutes. Et puis là, maintenant, elle en fait 67, je crois. Donc oui, ça... Oui, j'aurais aimé avoir une semaine de tournage en plus.
Vous avez tourné en Algérie?
Ouais, tout en Algérie. On a tout tourné en Algérie et ça, c'était super parce que même si le scénario est très écrit, moi, la mise en scène, je voulais respecter le scénario, mais l'oublier aussi à certains endroits et laisser un peu des endroits de spontanéité, des endroits d'improvisation. Parce que moi, j'ai fait que du documentaire avant et je voulais que le réel s'immisce dans la fiction et la module un peu, la change. Et pour ça, bah, il fallait tourner sur place.
Il y a un moment auquel vous pensez où justement le réel s'est immiscé, parce que tout paraît très naturel hein, quand on regarde la série.
Oui, bah, les séquences avec les mecs autour du rond-point, par exemple dans l'épisode 3 quand la mère passe et
sans son foulard
et que un des voisins dit ah là là, il doit y avoir un problème, elle court et sans son foulard. Ça, c'était entièrement de l'impro. La plage aussi, avec les deux filles, le petit garçon qui vient en chantant sur la plage, plein de choses.
Est-ce qu'il y aura une deuxième saison?
Alors, ce n'est pas prévu pour l'instant. En fait, on s'est dit que c'est tellement dur de quitter sa famille. Pas juste, en fait, parce que la famille dit non. C'est tellement dur émotionnellement pour Zouzou. Elle a passé 30 ans avec sa famille. Elle n'est jamais sortie du village. Et puis, du jour au lendemain, sa vie change, en fait. Elle quitte le village, elle quitte sa famille pour sa première fois. Et on s'est dit que c'est tellement un geste tellement fort, tellement pénible, qu'une saison 2, c'est un peu la faire revenir en arrière. On sait pas trop, en fait. Pour l'instant, on sait pas trop.
Zouzou, Chedma, Noulou, allez.
Jamais de la vie. Jamais de l'Allemagne. Calloy, calloy.
El Sardine, réalisé par Zoulira Tahar, actuellement sur Arte TV.
علي قلعت قلبي وتلف لي بلان
Carrefour du Maghreb, Cheb Hasni, Adzin jamais l'Allemagne. Nous quittons les rives de la Méditerranée pour nous enfoncer dans les rues de la Goutte d'Or à Paris. Rendez-vous à l'Institut des cultures d'islam, Lissy Léon, comme on l'appelle, qui accueille jusqu'au 27 juillet la rhétorique du rideau, six artistes de culture musulmane qui racontent à travers leurs œuvres leurs identités plurielles, en marge, comme derrière un voile. On se montre, on se cache, d'où le titre de l'exposition confié à Inès Geoffroy.
On parle plutôt dans l'expo de questions de minorité, de genre ou d'intimité en marge et de personnes de culture musulmane au sens large. Et donc la rhétorique du rideau, c'est une notion tirée du livre Amour de Jamel Ouazani qui a beaucoup travaillé sur les questions justement des sexualités des personnes arabes et ou musulmanes. Et ce qui nous intéressait comme point de départ, c'est que c'est une notion qui vient en contrepoint de l'injonction au coming out telle qu'on peut le connaître de manière plus générale et qui permet de créer un espace de marge, d'interstice à partir duquel décider des conditions d'énonciation de son travail, mais de sa personne également, parce que bien sûr les deux sont souvent liés, et qui permet voilà, justement de décider à quel endroit, dans quel contexte, à quelle personne on va énoncer tel ou tel aspect, d'accepter que ce n'est pas forcément un témoignage qui sera irréversible, qu'il peut évoluer, qu'il peut changer, parce que toutes ces différentes personnes ou personnalités le sont également. C'était une manière en tout cas d'arriver à témoigner un petit peu de ce qu'on pouvait vivre au quotidien, parce que ça semble théorique, mais en fait c'est une réalité concrète pour beaucoup d'entre nous.
Tout en délicatesse, en suggestion, comme écoute et comprend l'installation de Reda El-Tofeli Kanan, qui occupe la deuxième salle d'exposition, un voile de dentelle, la lumière au centre, activée par l'entrée des visiteurs, mais une lumière qui vacille, fragile comme un souffle, qui permet mal de distinguer les détails de l'œuvre. L'impression d'un trouble, d'un brouillard qui se dissipe par moments.
Il y a cette idée de garder une opacité qui peut évoluer à différents moments. Il y a des moments d'affirmation et de présentation totale, frontale. Ce n'est pas un positionnement de l'entre-deux permanent.
Vivre en marge des normes sociales est-il plus compliqué pour les personnes de culture musulmane ? Pas forcément, selon Inès Geoffroy, qui refuse toute assignation.
On peut partir de manière très frontale et se dire qu'il y a en effet une culture de la pudeur dans le monde arabo-musulman. Mais j'ai envie de dire aussi tout simplement, dès qu'on parle d'islam en France, tout de suite il y a des paroles fascistes qui peuvent s'élever. C'est tout de suite pris pour un sujet autre que celui qu'il représente, comme cette expo. Et donc du coup c'est une volonté aussi de ne pas vouloir rentrer dans un espace qui est sursaturé, surpolémique et qui nous enlèverait en fait une parole parce que du coup on se focaliserait sur autre chose.
Dans les œuvres exposées, le lien familial est souvent présent. Souvenir de la mère, discussion avec le père, tout en sous-entendu dans le film d'Emma Bertlazli.
C'est une conversation entre un père et sa fille. On assiste presque en témoin caché. Et dans cette conversation, on parle de foot. C'est le terrain de jeu, du coup, d'une forme de confession de cette fille à son père qui va expliquer un petit peu son positionnement à l'heure actuelle en tant qu'adulte. Voilà, en se mettant en rejet des rôles assignés.
Le foot que tu as vu, c'est pas du tout du foot féminin, c'est du foot inclusif. Donc c'est juste des personnes qui n'ont pas leur place sur un terrain avec des hommes cis qui n'acceptent pas les autres. Et le problème, c'est pas que les autres veulent pas des uns, c'est que de base, ils n'acceptent pas certaines personnes.
elle voulait jouer au foot, elle s'est retrouvée à faire de la danse.
Alors, elle a fait du foot, mais elle n'a pas été tout à fait portée et soutenue dans cette démarche qui n'était pas forcément tout à fait comprise. Et on lui a proposé de faire la danse qu'elle a fait, mais elle ne se retrouvait pas dedans. Et en fait, cette vidéo, c'est parce qu'à l'âge adulte, elle a repris le foot et elle a compris ce que ça signifiait pour elle. Et cette conversation avec son père, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle voulait avoir l'avis de son père pour comprendre comment lui aussi, il avait vécu ça derrière. Et ce qui est assez touchant, c'est que lui, il n'a pas les mêmes souvenirs, il ne se souvient pas de la même manière. Et il se rend compte que, enfin, voilà, il la voit à quel point elle est épanouie maintenant et à quel point ça fait sens pour elle. Et que ça lui permet de se développer sur d'autres aspects, parce qu'on parle d'équipes de foot inclusives qui accueillent des personnes sans discrimination de genre et donc qui permettent aussi d'avoir un aspect militant qui est important.
Mais si tu regardes le foot d'une autre manière, oui, ça dérange un peu, je pense. Parce qu'ils ont peur aussi que leurs enfants deviennent lesbiennes et trans.
L'œuvre d'Emma Berthe-Lasley s'appelle « But I'm not a cheerleader ».
Là, on a des tatouages qu'on dissimule.
Alors là, c'est le travail de Meriah Benbachir, qui est artiste et également critique d'art, donc qui travaille énormément sur le discours, sur la forme du discours et les conditions d'énonciation. Et ce qu'on voit là, donc, c'est deux vidéos qui se font face où on la voit faire disparaître ses tatouages avec tout simplement du maquillage. Et elle met vraiment en image et en œuvre ses propres conditions de disparition, d'effacement. Et on a également des signes de ponctuation sur un mur qui sont tout simplement en fait ce qu'il reste d'un texte qu'elle a écrit pour l'exposition, mais dont elle a enlevé tout le contenu pour vraiment laisser que les éléments de ponctuation pour encore une fois être sûre qu'elle est la seule personne qui maîtrise son discours. Et par exemple, elle va lire ce texte lors d'une performance. C'est la seule détentrice et la seule personne qui peut réutiliser ce texte et le développer.
Inès Geoffroy pour l'exposition « La rhétorique du rideau ». Ce que l'on dit, ce que l'on tait, l'Institut des cultures d'islam propose une série de performances pour accompagner cette exposition. Ce jour-là, c'est le média sonore Clam qui vient proposer son podcast en écoute publique. Comment on s'aime explore l'amour chez les personnes originaires du Maghreb. On y parle de l'amour sous toutes ses formes, filial, conjugal, homosexuel. Et ça résonne avec le public rassemblé devant les enceintes. On rit, on convoque l'histoire de la colonisation, mais aussi les soirées passées enfants devant la télé pour essayer de comprendre ces silences qui entourent l'intimité et qui paraissent bien universels. Carrefour du Maghreb à la réalisation, Françoise Grelot, à bientôt.